Qui n'a pas un jour rêvé de changer de vie? Certains l'ont fait pour devenir paysan. Mais quelle drôle d'idée! La crise frappe de plein fouet le monde agricole et un agriculteur sur deux vit avec moins de 350 euros par mois. Pourtant, une poignée d'irréductibles fait le pari de donner un nouveau souffle à ce monde en déclin. Il y a ces néo-paysans qui viennent des villes. Et puis il y a ces anciens qui changent leurs pratiques pour se reconnecter à la nature.
Tu files ? Allez !
Allez, nounou !
Ces pionniers réinventent l'agriculture pour en faire un métier d'avenir. Ils explorent le champ des possibles.
Bonjour Marie-France Barrier.
Bonjour.
À la base de votre documentaire Le Champ des Possibles, il y avait une décision, celle de tout arrêter pour vous former au maraîchage bio à la ferme Sainte-Marthe en Sologne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a poussé à mettre en pause vos activités de documentariste pour vous lancer dans le maraîchage?
Alors, je ne me suis pas lancée, j'ai eu l'envie de me lancer. Et comme beaucoup de gens aujourd'hui, j'ai eu une perte de sens professionnel. À un moment de se dire, j'aime mon métier, mais il ne s'inscrit pas suffisamment il n'est pas suffisamment aligné avec ma vision du monde. J'avais envie d'être dans l'action et j'avais vraiment ce souci de prendre soin de la terre. Et donc j'avais proposé de nombreux documentaires, sujets, en tant qu'auteur et que réalisatrice à différents diffuseurs. Et tous étaient refusés. Et donc il y a un moment où je me suis dit, il faut savoir écouter les signes de la vie. Et puis si ça ne fonctionne pas, c'est peut-être que je n'ai pas ma place, peut-être que je me suis trompée, que c'est plus le moment. Et donc il y a un moment où j'ai décidé d'aller au bout de mon appel du cœur et d'aller vraiment toucher la terre et apprendre et puis me rapprocher de ce monde agricole dont je me sens si proche. Et en fait la belle histoire, c'est que en fait j'ai lâché prise par rapport à ma volonté très forte de faire un film sur ce sujet, sur l'érosion des sols et sur le contre-champ de la crise agricole. Et c'est en lâchant et en disant, bon, puisque c'est ainsi, soit je vais œuvrer différemment, que des diffuseurs et que des gens sont revenus vers moi en me disant, mais attends, mais pourquoi tu pars? Mais peut-être qu'on a quelque chose à faire, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Et donc, c'est à cette occasion que j'ai décidé de m'inspirer de mes compagnons de promotion pour justement dire qu'il y avait, donc on parlait beaucoup de la crise agricole, de ce contexte un peu morbide, suicidaire, d'un monde agricole qui se cherche, mais qu'en contre-champ, cet effondrement laisse la place et la lumière pour des nouvelles alternatives et des gens et des idées et des logiques qui ont besoin d'être mises en lumière si on veut qu'elles se développent.
Le réalisateur René Alliot déplorait en 1981 que seuls les citadins venaient filmer le monde rural. Est-ce que, aussi bien dans la fiction que dans le documentaire, vous pensez que vous parlez des réalités du métier de paysan? Vous pensez qu'il faut que le réalisateur ou la réalisatrice soit particulièrement lié au monde rural ou donc par ses origines ou d'expériences qu'il ou elle a vécues pour en parler?
Le fait d'être issu du monde agricole ou pas, c'est vrai que ça apporte une autre couleur, peut-être une autre authenticité au témoignage. Pour autant, en fait, ce qui est important de savoir, c'est que qu'on soit du monde rural ou urbain, nous avons tous besoin de manger 3 fois par jour. Et que ça crée un lien vital de chacun d'entre nous, où qu'on vive, avec le monde agricole. Et donc, voilà, moi, j'ai aucun lien avec le monde agricole. J'ai pas grandi dans le monde agricole. J'ai aucune connexion avec ce monde-là. Pour autant, et c'est peut-être le fait d'être maman. Après, je suis géographe, moi. Donc, la géographie, c'est aussi ce lien à la terre. Et c'est un autre lien à la terre. Le simple fait d'être maman et de faire à manger tous les jours à mes enfants et de questionner ce que je mets dans mes marmites et dans mes casseroles et questionner ce que je donne à manger à mes enfants, en toute logique, ça m'a remonté à qui produit et comment et pourquoi. Et est-ce que les gens qui produisent sont heureux? Enfin, qu'est-ce qu'ils vivent ? Et en fait, voilà, moi, je crois très fort en la connexion du vivant. C'est pas ma religion, mais c'est mon art de vivre, en fait. Je me sens très liée au vivant, quel qu'il soit humain, qu'il soit ver de terre, qu'il soit végétal ou autre. Je vis là-dedans. Et donc, forcément, je me sentais liée à ceux qui me nourrissent. Et donc, au bout d'un moment, d'œuvrer à ce qu'ils soient reconnus, dans le fait que c'est le seul corps social et professionnel qui soit absolument indispensable. On peut se passer de réalisateur et de réalisatrice, on peut se passer de tout presque dans une société, sauf de manger, à moins de se de pourvoir soi-même à ce qu'on mange. Et donc ça fait que ce sont les plus nécessaires d'entre nous, et pourtant on vit le paradoxe que ce soit aujourd'hui non seulement des gens qui vivent souvent dans un grand désarroi financier, mais en plus un grand désarroi émotionnel et affectif, parce qu'en plus l'agribashing du moment en fait que ce sont des gens qui sont taxés de tous les maux, alors qu'en fait ce qui leur arrive, c'est ce qui nous arrive à nous tous. Voilà, donc en fait je pense que tout le monde est légitime de parler du monde agricole, parce que c'est parler de soi-même. Ce qui importe, c'est surtout d'en parler avec son cœur, avec amour et respect. Voilà, ce qui était un peu mon point de départ.
Concernant donc l'aspect technique donc de votre film, donc la réalisation, la production en général, comment avez-vous fonctionné d'une part sur le tournage, et quand vous êtes allé sur place, donc rencontrer les personnes, aller dans les fermes, dans leur lieu de vie, comment vous aviez travaillé ?
En termes d'écriture, il y a un gros travail de casting, je dirais. C'est-à-dire qu'avant même qu'il y ait du casting, il y a qu'est-ce qu'on veut dire ? D'ailleurs, quand on veut faire raconter n'importe quelle histoire ou rédiger n'importe quel devoir universitaire et autres, c'est toujours important de savoir ce qu'on veut dire. Et donc, moi, j'étais partie sur l'idée que je voulais relater une vérité dans sa difficulté, mais essayer de montrer qu'il était toujours possible de basculer vers quelque chose de vertueux, vers quelque chose d'apaisant, vers quelque chose de nourrissant. Moi, je ne suis pas journaliste, je suis réalisatrice. Et donc, ça me laisse un espace qui est énorme, à savoir que je n'ai pas d'obligation à soi-disant relater une vérité. Je relate, je transmet ma vérité, mon point de vue. Et donc, mon point de vue, j'ai la chance des petites fenêtres qui me sont données comme ça sur des chaînes pour de temps en temps pouvoir dire ma façon de voir le monde. Et donc, ma façon de voir le monde est en l'occurrence de revendiquer un libre arbitre qui a décidé de miser sur ce qui fonctionne, voilà, sur ce qui marche, sur ce qui fait du bien, sur ce qui est vertueux, résilient. C'est mon choix de citoyenne, parce que sinon, finalement, quand on décide d'aller dans l'autre sens, je trouve que c'est très difficile à vivre et que c'est parfois complètement déprimant. Et donc, ce choix initial d'aller chercher des gens qui ont basculé pour aller d'un moment où ils n'allaient pas bien, parce que beaucoup de gens parmi nous ne se sentent pas bien, de gens qui traversaient cette errance, ce désarroi, pour quelque raison que ce soit, et qui basculaient pour enfin trouver les solutions, trouver leur place, trouver la bonne façon de manœuvrer dans leur profession. Donc ça, c'était le point de départ. Et ensuite, pour avoir une vision suffisamment juste de la situation, l'idée était d'avoir un panel de profils suffisamment différents. Donc voilà, il y avait toute l'importance du point de vue départ qui fait que, qu'est-ce que je cherche ? Je cherche des gens qui ont un parcours de vie, une histoire de vie qui nous fait passer de l'obscurité, de la douleur ou de la difficulté à quelque chose de plus solaire et de plus inspirant. Ça, c'était le premier point de départ. Le second, c'est que le monde agricole, il y a une diversité de profils qui sont les nouveaux paysans, dont moi j'étais un petit peu justement représentative. Mais il y a les vignerons, il y a les grands céréaliers, il y a les éleveurs, il y a les collectifs. Donc j'ai cherché à avoir une disparité en fait de profils, pour ne pas être ni que avec les gros céréaliers, ni que avec le petit en micro-ferme, ni que avec celui qui est que en bio. Moi, j'essayais d'aller assez loin, assez vaste, pour que finalement la diversité des situations soit au plus révélée, retransmise. Donc ça, c'est le second pas. Bon, après, le troisième point, c'est passer des heures et des heures au téléphone et enquêter et appeler beaucoup de gens et parler avec des centaines de gens jusqu'au moment où on trouve les bonnes personnes qui ont envie de témoigner, qui ont envie de parler de leur chemin de résilience. Et puis après, je prends ma petite voiture, mon petit van. J'ai la chance d'avoir un petit van. Et donc, j'ai passé pas mal de temps à sillonner les routes de France et à poser mon van et à dormir dans les cours de ferme pour passer du temps avec ces fermiers. Ces fermiers ou ces agriculteurs pour qu'ils me fassent confiance, qu'ils comprennent que je ne suis pas à la télé, que je ne suis pas un journaliste, mais que je suis une citoyenne au service d'une transition agroécologique. Et donc, c'est aussi des rencontres, passer du temps pour se comprendre, pour s'aimer, quoi, en fait, finalement, pour se faire confiance. Et puis, dernière étape, c'est venir avec un cadreur. Et moi-même, j'ai une caméra, donc on travaille avec deux caméras. Et puis, c'est filmer des moments de vie, passer du temps à les regarder vivre, à les regarder respirer, et puis après faire des interviews qui reprennent tout ce qu'on s'est déjà dit, en fait, quelque chose qu'on a déjà travaillé, on est d'accord ensemble sur ce qu'on va dire, sur ce qu'on va explorer, puis après, il y a les petits moments, justement, parce qu'il y a une confiance, il y a les petits moments où il y a des cadeaux, il y a des moments de grâce, où il se passe des choses, il se passe une forme d'imprévu. C'est un long processus, mais voilà, qui se cadenasse un peu comme ça.
On peut comprendre avec le recul sur 50 ou 60 ans que les paysans disent à leur fils « Ah ben mon coco, va à l'école et puis fais autre chose parce que nous on fait un boulot de manant et puis on n'en sortira jamais. » Alors moi j'ai l'exemple type, un génie des alpages qui a fait des études tant qu'il pouvait parce qu'il se sentait capable et puis il pensait que c'était un chemin pour changer le monde comme il dit. Puis finalement une fois qu'il est arrivé au bout, ben, il a vu que le monde il se change pas de cette manière là, alors il est revenu sur d'autres considérations et puis ma foi, il va vivre ça. Et c'est vrai que lui, il apprécie beaucoup, je pense, cette autonomie, cette indépendance. Là, il est son chef. C'est pour ça que d'ailleurs, je lui ai laissé les rênes rapidement, parce que comme ça, il est vraiment son chef, quoi.
Dans votre documentaire, on trouve plusieurs profils différents. On trouve notamment ce que vous appelez les néo-paysans. Donc ces personnes qui viennent des fois des villes, en tout cas qui ont quitté leur travail bien payé, une situation confortable pour devenir paysan, pour remettre les mains dans la terre. Et on trouve aussi des agriculteurs qui étaient plus dans l'agriculture qu'on appelle traditionnelle, donc intensive, et qui ont changé de modèle, en fait, malgré la difficulté de cette situation-là, parce que quand on change de modèle, c'est très compliqué, c'est très long, c'est très difficile les premières années, les sols sont abîmés, il faut quelques années pour pouvoir se déclarer bio et pouvoir avoir les revenus qui en découlent. Donc au final, est-ce que dans ces deux profils, peut-être types différents, ce qui les relie, c'est peut-être cette envie de retrouver du sens, de retrouver un autre lien à la terre, de retrouver du sens dans ce qu'ils font?
Alors oui, il y a très clairement cette idée de retrouver du sens, d'être fier de soi et d'avoir plaisir à se lever chaque matin et à se dire qu'on est à sa place, en fait. Il y a cette idée-là. Et je dirais que moi, ce qui me touche chez ces gens aussi, c'est qu'ils ont à la fois un immense courage et une immense humilité. Et ça, je trouve ça extraordinairement admirable parce que se remettre en question, changer ou alors juste aller au bout de son rêve, au bout du petit truc qui vous chuchote, qui nous chuchote à bien nombreux au fond de l'oreille ou au fond du crâne, peut-être de repenser sa vie, de la réorienter. C'est difficile parce qu'il y a un moment où c'est un peu le saut de l'ange, quoi. Il faut faire confiance à la vie, se faire confiance à soi-même. Et donc, il y a un courage immense et beaucoup d'humilité. Et je dois dire que plus encore, je trouve que la difficulté pour les agriculteurs de souche qui ont hérité d'une ferme, qui ont hérité d'un modèle, qui ont hérité de dettes également, et qui ont hérité de plein de certitudes, se remettre en question, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile qu'un néo-paysan, un urbain qui a juste besoin, qui est en burn-out, en born-out devant son ordinateur. Et je fais cette petite précision parce qu'aujourd'hui, on est quand même très exigeant et très impatient vis-à-vis du monde agricole traditionnel. Nous, en ville, parfois, on pense que la crise agricole peut se régler à coups de clics. pétitionnaires pour ou contre le glyphosate, pour ou contre plein de choses. Mais en fait, la réalité du débat est tellement plus complexe que pour nous, cliquer et dire « moi, je veux plus de glyphosate », ça n'a rien à voir avec ce que ça implique pour les agriculteurs de transmuter et de transformer toute leur vie, de renoncer à tout ce que leurs parents ont pu croire ou penser. Et donc finalement, il faut un petit peu de bienveillance, d'amour en fait vis-à-vis de ces agriculteurs. Eux-mêmes savent que le changement, enfin eux-mêmes, pas tous, certes, il y a toujours des gens qui restent un petit peu voilà, obtus et fermés sur leurs décisions. Il y a des gens qui sont prêts à changer, mais en fait on les bâche tellement, on les pointe du doigt tellement que de façon très presque ordinaire, ils se braquent. Et en fait la suite se fera dans la transition agricole si nous autres consommateurs, en fait on est moins jugeants, peut-être plus patients, et en fait si on s'applique à soi-même déjà les exigences qu'on aimerait voir dans le monde agricole. Et en général, il y a quand même un peu une contradiction entre cliquer pour dire que les autres changent, et puis soi-même, on a un caddie qui reste bourré de plastique et d'autres choses incohérentes. Donc voilà, c'est mon petit... tout ça pour dire que j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour le monde agricole qui arrive à se remettre en question. C'est une leçon de vie.
Bon, là, le trèfle-tout est au bon stade, hein. Oui, t'es même déjà...
On est déjà à plus de 20, ouais. Si on regarde, on a quand même une proportion de trèfle
qui
est assez importante. Nous, on est là pour montrer aux éleveurs qu'on peut faire autrement, qu'on peut produire du lait autrement qu'en leur donnant, qu'en donnant aux vaches laitières du maïs et du soja. Eux-mêmes, sans le savoir parfois, ils ont des marges de manœuvre sur des postes de charge, sur le coût alimentaire. C'est un des premiers postes de charge sur les élevages laitiers en France.
Vous voulez déjà faire de l'herbe ? Il y a quelques années, on nous a déconseillé, on nous a dit « si vous faites ça, vous allez droit dans un mur ». Faut produire, comme disait Étienne, faut produire pour gagner plus. Et on avait fait un tour de table, nous, avec notre banque, conseiller de gestion et contrôle laitier. Et qu'est-ce qui est sorti de la table ? C'est que bah, produisez votre quota encore plus et vous arriverez à en sortir. Et ça a été pire, on a été dans le mur. On fait beaucoup de chiffre d'affaires, mais il reste rien. On est là pour payer, faire vivre nos banques, les firmes d'aliments, tous les lobbies. Hein. Et puis nous, il ne nous reste rien. Et je pense que si personne nous dit qu'on peut faire de l'herbe et réussir, ben, on ne sait pas.
Un agriculteur se suicide régulièrement en France. On ne compte plus les cas de burn-out, de dépression dont vous évoquiez, sous-entendiez. Les agriculteurs ne veulent plus que leurs enfants reprennent la ferme familiale. Qu'est-ce qui explique cette situation dramatique dans le milieu agricole, ces séparations, ces divisions humaines ?
Il y a beaucoup de facteurs. Il y a un des facteurs qui est un facteur lié au surendettement, déjà. En fait, le monde agricole, c'est le socle de notre société. Donc, je pense qu'une des principales causes de désarroi, elles sont multiples, mais une des premières causes de désarroi, c'est le surendettement du monde agricole. C'est-à-dire qu'ils sont partis dans une spirale du toujours plus. C'est-à-dire qu'ils sont les premiers à vivre ce diktat, cet impératif de la croissance qui nous met tous à mal. Et en fait, le monde agricole, c'est notre miroir à tout le reste de la société. C'est-à-dire que quand il va mal, il nous parle de nous et de tout le reste de la société. Il nous parle de nos maux. Et en l'occurrence, cette course à la croissance, c'est-à-dire cette logique qui voudrait faire penser que, voilà, avoir toujours plus de terres pour pouvoir mieux étaler ses frais et donc nécessairement avoir plus de matériel et plus de... Enfin bon, voilà, cette course à la croissance et à l'investissement mène à des endettements liés au fait qu'ils ne maîtrisent pas leur prise agricole et autres. Voilà, ils sont absolument prisonniers. Donc la grande leçon en fait que mettent en place certains agriculteurs et de plus en plus, c'est cette notion de décroissance. Et certains comprennent qu'en fait, non seulement... La croissance, ça les pousse à attendre la mort du voisin. Ça se traduit comme ça dans le monde agricole. C'est que le voisin, lui-même est en burn-out ou lui-même est au bord du suicide, bah, peut-être que du coup, ça fera des terres à racheter pour agrandir soi-même. Donc, ils sont pris dans ce truc comme un hamster dans une roue, mais ils sont pris parce que nous sommes pris dans cette logique-là. Donc là, il y a certains agriculteurs qui arrivent, et c'est admirable, à se dire, en fait, le plus logique, ça serait que j'arrête de grossir et que je commence par agrader. C'est-à-dire que toute cette logique de croissance, c'est lié à un phénomène de dégradation de nos terres, mais de dégradation de tous les services que nous rend la nature, la qualité de l'eau, la qualité de l'air, la qualité de la nourriture. Tout s'est dégradé, et ce qui s'est dégradé en premier lieu, c'est leur qualité de vie, c'est leur revenu. Et pour certaines personnes, ils ont réussi à s'extraire de cette diktat de la croissance pour se dire, eh bien, peut-être que en gardant ce que j'ai et en agradant ce que j'ai, c'est-à-dire en me concentrant à donner de la valeur, en nourrissant ce que j'ai, et bien souvent, donc c'est en changeant complètement de logique, c'est en arrêtant souvent le labour, c'est en replantant des arbres, et parfois c'est en invitant d'autres agriculteurs à venir partager les terres, c'est-à-dire qu'à se dire, ah ben en fait, peut-être que je gagnerais de l'argent à moins en dépenser en charge de produits phytosanitaires, d'entretien de mes machines, en utilisant moins de terre, en cultivant mieux, de meilleure qualité, donc en étant en capacité de vendre à meilleur prix mes produits. Et peut-être que là, peut-être je peux partager certains bouts de territoire avec un tel qui ferait du maraîchage, un tel qui ferait de l'élevage, un tel qui ferait de l'apiculture. Et donc doucement se remettent en place des nouvelles logiques, mais en fait qui ne sont pas menées par une forme d'idéologie. C'est juste du pragmatisme. C'est qu'au bout d'un moment, la croissance... ça y est, on est arrivé au bout du mythe. Donc, au bout d'un moment, la croissance, c'est la chute. On a monté pour chuter de très haut. Et donc, ça, c'est ce qui se passe. Mais en même temps, voilà, toutes ces erreurs et tous ces moments d'errance sont un peu des cadeaux pour nous apprendre à repenser la suite. Et ce que font de plus en plus de gens, et le monde agricole est justement extrêmement fertile d'idées, de partage, de mise en commun. En fait, le monde agricole est de façon souterraine, à l'image des vers de terre qui refertilisent nos sols. Ils sont de façon souterraine en train de repenser notre société et en train de se réorganiser. Donc, on a une lecture assez faible de ça, mais on n'est pas à l'abri de belles surprises dans les décennies à venir.
Marie-France Barrier, en réalisant votre documentaire Le Champ des Possibles, vous avez eu l'occasion de rencontrer beaucoup de paysans et néo-paysans qui travaillent dans de petites exploitations et produisent en biologique. D'après vos observations sur le terrain et les discussions que vous avez pu avoir avec ces paysans, est-ce que vous pensez que le retour vers ce type d'exploitation et un mode de production en accord avec le principe de décroissance soit viable sur le long terme, tant au niveau financier pour ces paysans qu'au niveau de la possibilité de nourrir tout le monde ?
Alors après, moi, je ne suis pas une experte. Je suis une citoyenne un peu attentive. Je ne suis pas une experte. Mais voilà, les détracteurs, forcément, n'ont pas du tout envie qu'on laisse entendre que produire sainement et raisonnablement puisse nourrir la planète. Moi, je fais partie des gens qui croient en l'abondance. C'est-à-dire que la nature, par nature, est abondante. Quand on pense qu'un pépin de pomme porte en lui-même des millions de pommes, c'est la nature de la nature, ça, de le moins de grain de raisin ou de quoi que ce soit porte en lui-même un arbre qui porte en lui-même des millions d'arbres. Donc la nature est abondance. Ce dogme de ressources limitées, c'est un dogme qu'on nous a martelé parce qu'il va en faveur d'intérêts de certaines personnes qui ne veulent pas qu'on puisse concevoir que en fait, l'abondance est à disposition. Et en fait, tous les nouveaux modes de culture qui sont liés à la permaculture ou à l'agroforesterie, parce que la permaculture est en fait avant en poupe, mais est très valable pour des petites structures, des micro-fermes ou à l'échelle de pour le maraîchage en fait. Mais la réalité du monde agricole tel qu'il est aujourd'hui, c'est quand même, on est sur un monde agricole qui est sur des grandes parcelles où ça se chiffre en centaines d'hectares. Et donc là, le grand challenge est de se dire de comment est-ce qu'on adapte la permaculture à la grande surface. Et donc là, il y a plein, et c'est en ça qu'on vit quand même un moment, à mon sens, assez foisonnant et passionnant, c'est qu'aujourd'hui, les agriculteurs sont en train d'eux-mêmes inventer, en fait, adapter les bienfaits de la permaculture et de l'agroforesterie aux grandes surfaces. Et donc, on voit que maintenant, en fait, dans les grandes plaines céréalières, où on est sur une monoculture, il y a un gâchis hallucinant de l'énergie solaire. C'est-à-dire que l'énergie solaire, elle bombarde tout un grand plant de maïs ou de blé pendant toute une journée. Sauf que un végétal n'absorbe pas de l'énergie solaire pendant toute la journée. Il a un tout petit créneau, quelques heures par jour, où en fait, il va se nourrir de cette énergie solaire pour faire sa matière organique. Donc ça veut dire que toutes les autres heures de la journée où il s'est rentré en lui-même parce que ça y est, il est plein, et bien l'énergie solaire est complètement gâchée. Et donc ce que mettent en place des nouvelles techniques, dont l'agroforesterie, dont je suis une ambassadrice, parce que je trouve que pour moi, c'est le retour dans le jardin d'Éden, d'une certaine manière. L'agroforesterie, bien sûr, c'est le fait d'intégrer des arbres et de faire revenir l'arbre au sein des parcelles. Donc, ce n'est pas des arbres qui sont dispersés à gauche, à droite, au gré de je ne sais quoi, mais c'est des arbres qui sont plantés en alignement au sein des parcelles. Et l'arbre joue son rôle de fertilisant naturel, d'abri pour une faune, une flore. Puis surtout, l'arbre, c'est celui qui nous crée du sol fertile. Et donc, j'ai bon espoir en fait que l'agroforesterie trouve sa place dans les grandes plaines céréalières, parce qu'en fait, pour ces agriculteurs qui en fait où il y a une espèce de gaspillage de l'énergie solaire, si on plantait des arbres au sein des parcelles de façon alignée, donc ce qui est complètement compatible avec l'usage des grandes machines, avec les moissonneuses-batteuses, avec la mécanisation en fait, hein, il ne s'agit pas de retourner derrière son cheval, il n'y a rien d'archaïque, on continue dans le mouvement, dans la notion de progrès, sauf que l'arbre est reconnu comme étant un allié du progrès, parce que l'arbre, déjà, il nous crée du sol, il nous crée des tampons par rapport aux aléas climatiques, il nous crée de l'ombre pour les animaux, il nous crée du fourrage pour les animaux, il nous crée et des complément revenus, c'est-à-dire que pour des céréaliers ou des agriculteurs qui sont parfois très vulnérables parce qu'ils sont en monoculture, et que monoculture avec en plus des variétés qui sont souvent hybridées et donc clonées, donc très vulnérables aux maladies. Quand on rentre de la diversité dans la culture, en rentrant des arbres, non seulement on peut éventuellement se rentrer des compléments de culture avec de la production d'arbres fruitiers, avec voilà, et puis ou alors des compléments de revenus avec des bois d'œuvre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, planter du bois au sein de parcelles, ça peut devenir une façon de capitaliser, de donner de la valeur à des terres agricoles. Et pourquoi pas de compléments de retraite dans 40, 50, 60 ans, quand on pourra couper ces arbres pour en faire du bois d'œuvre. Voilà, donc encore une réponse très longue, je m'en excuse, mais il y a tellement de choses à dire sur le fait que aujourd'hui, nous disposons, et c'est en ça que c'est absolument extraordinaire, d'un retour d'expérience que l'on peut capitaliser et que les agriculteurs sont en train doucement de se transmettre les uns les autres, parce que c'est entre eux qui se transmettront l'information et plus de façon descendante de conseillers techniques ou agronomes qui viendront leur dire comment cultiver leur champ.
Je pense beaucoup à l'idée de preuve par l'exemple, c'est-à-dire qu'effectivement, des gens comme mon père, par exemple, ils avaient pas l'exemple sur le cas, la Poligny, qu'il y avait en bio, finalement, c'était possible. Il y a une peur qui est légitime du bio, c'est plus risqué, c'est vrai. Donc moi, je comprends cette idée-là. Mais une fois que les gens ont la preuve par l'exemple que ça marche, eh ben ça déverrouille des blocages dans la tête. Et donc, je suis tout à fait optimiste pour l'avenir. En attendant, pour le moment, je maintiens. Je peux pas dire que ça ne me pose aucun problème. Mais je suis assez optimiste pour l'avenir.
Dans le terme de néo-paysan, on retrouve le mot paysan. C'est un mot qui a été considéré comme péjoratif, donc qui a été connoté négativement, et qui est aujourd'hui récupéré, porté avec fierté par un petit nombre d'agriculteurs et d'agricultrices. Comment vous expliquez le retour de ce mot, sa réappropriation, sa revalorisation positive aujourd'hui ?
Bah là, c'est bien la preuve que toute la sémantique, la sémantique dit beaucoup, parce que en fait, il y a eu un double mouvement. Donc, dans les années 50, 60, 70, les petits paysans, sont devenus après remembrement, après achat de grosses machines, usage de produits, sont devenus exploitants agricoles. Et donc là, il y avait quelque chose de très très chic, de très valorisant, et en fait c'est voilà, c'était, on est dans cette culture de, je sais pas, de la performance, de ça faisait très cadre supérieur, je sais pas, pour le monde agricole, c'est ce côté exploitant agricole. Ça disait aussi qu'on exploite une matière, on exploite la terre comme un minerai, on exploite comme une mine. Et bon, bah en fait, c'est quand on exploite, en général, on ne restitue pas. Donc aujourd'hui, on arrive à la limite de « je prends, mais je ne redonne rien ». Donc aujourd'hui, en effet, il y a les néo-paysans qui ont cette nouvelle casquette et qui voient quelque chose, voilà, l'informaticien qui trouve que c'est très chic d'être paysan, parce qu'à l'origine, paysan, c'est celui qui dessine le paysage, c'est celui qui crée le pays, c'est celui qui crée notre identité, parce que nos paysages, ce sont nos identités, en fait. Et aujourd'hui, surtout, le paysan, ce qu'il avait, le bon sens paysan, c'était l'autonomie. C'est-à-dire qu'il avait un peu de tout. C'est celui qui ne mettait pas tous ses œufs dans le même panier. Et donc, concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire ne pas faire de monoculture. Parce que quand on fait de la monoculture, on met tous ses œufs dans le même panier et on se prend les pieds en allant au marché, en fait. Donc le paysan, il avait cette diversité d'activités qui était un peu de bétail, un peu de maraîchage, un peu de céréales. Et en fait, il y avait cette idée que le bétail allait créer le fumier qui allait nourrir le bétail, qui allait nourrir la terre. Il y avait ces rotations. Et si jamais il y avait un problème sur une des activités, il y aurait toujours les autres, il y aurait toujours les œufs, il y aurait toujours le cochon, il y aurait toujours les céréales pour faire que ça reste vivable. Les grandes logiques standardisantes et puis l'époque de la grande échelle a fait que c'était ridicule, ce petit paysan qui vivote et qui se nourrit lui-même et son village. Bon, maintenant, en fait, on va arriver sans doute dans une espèce d'entre-deux qui est, pour beaucoup, et là, moi, j'en ai rencontré beaucoup, des exploitants agricoles qui se disent qu'ils redeviennent paysans. En fait, et qui sont fiers de ça, parce que être paysan, c'est renouer avec l'autonomie. Et dans mon film, il y a surtout l'exemple de cet éleveur laitier qui est devenu exploitant agricole pour beaucoup en massifiant en fait ses rendements et son activité. Et donc en se disant je vais arrêter de produire mes propres aliments, je vais en acheter une partie et puis je vais faire comme on m'a dit de faire là, parce que voilà, il y avait une recette magique qui était dictée par des gens qui venaient avec leurs petites mallettes et leurs petits vestons de Paris pour dire comment est-ce qu'on fait pousser des légumes. Et ce monsieur, il a joué le jeu de pour produire plus, pour que ça crache plus. Il y avait cette idée, il faut que ça crache les vaches. On va leur donner du maïs, du soja. Sauf que le maïs, ça coûte très cher. Le soja, on sait d'où ça vient et quels sont les effets sur la biodiversité à l'autre bout du monde. Et donc ce monsieur, maintenant, il est retourné à cette idée toute simple, mais qui redevient révolutionnaire, c'est de mettre les vaches au pré. Parce que l'herbe, elle pousse toute seule, et en plus elle pousse gratuit, c'est génial. Et donc voilà, parfois on a besoin de soi-même se planter pour s'apercevoir que, d'ailleurs j'ai un petit jeu de mots là-dessus, sur il faut se planter pour être bien cultivé, et en fait c'est cette idée-là que il n'y a rien de plus vertueux aussi que l'erreur pour vraiment apprendre. Ce monsieur, lui, il est très fier maintenant de retourner à une autonomie, c'est-à-dire que il a besoin de rien. En fait, il a juste besoin de faire pousser de l'herbe et de profiter de ce paysage magnifique qui lui est donné chaque matin. C'est ça aussi ce qui se passe, c'est que c'est tout ce rapport au travail, au labeur et au labour. C'est les mêmes racines de mots. Et en fait, on est dans une société du travail, de la performance. Si on ne travaille pas beaucoup, on n'est rien du tout. Et donc, nos agriculteurs sont en train d'ouvrir la voie de l'idée que, en fait, en sachant travailler moins, parce qu'on se fait aider de la nature, qui sait, elle, faire pousser les trucs ? On va pas lui apprendre à faire pousser. Elle sait faire. Elle sait peut-être pas programmer des ordinateurs, elle sait peut-être pas faire voler des avions, mais la nature, elle sait faire pousser des végétaux. Et donc, que si on travaille en lien avec elle et si on collabore avec elle, et ben peut-être qu'elle peut faire une bonne partie du boulot à notre place, et nous, peut-être qu'on peut prendre un peu plus de temps pour être heureux. Et ça, s'accorder le temps d'être heureux, et ben c'est pas facile. Je veux dire que ce n'est pas dans l'ADN de notre société. Et donc ces agriculteurs qui se mettent à réinventer leur métier, ils ont le courage de prendre du temps pour eux-mêmes. Et bien finalement, de nos jours, c'est quand même sacrément rebelle de se dire bah, « je vais prendre du temps pour moi, pour être heureux » parce que la nature et en fait l'intelligence de la vie m'y accompagne.
Attends. Pardon. Il faut y aller tout doucement, parce qu'il y a des énormes manettes, un crayon. Et après, tu fais monter les chèvres. Et pareil, les chèvres, il y en a 3 en monotraite et 3 en bitraite.
D'accord.
Ce week-end, c'est Clémence qui est d'astreinte. Donc, c'est elle qui va s'occuper de tous les animaux pendant que nous, on sera en week-end. Donc, ça nous arrive une fois sur 11. Et du coup, dans la semaine, ceux qui sont d'astreinte viennent faire les traites avec nous pour qu'on transmette des petits trucs qui changent d'une fois sur l'autre et qu'il faut remettre au clair.
Allez, allez, fais pas des curieuses. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Yibibi. Yibibibibi, yibi.
On a cette image de l'agriculteur ou l'agricultrice qui n'a pas une semaine de congé par an ou peut-être une fois une semaine peut se permettre de partir, alors surtout quand il a des cultures avec des animaux ou qui font de l'élevage. Et justement, au contraire, dans votre documentaire qui est très positif, par ailleurs, on trouve cette ferme collective montée par un groupe d'amis qui décide de s'accorder du temps, comme ça, des moments d'astreinte qui sont donnés aux uns et aux autres pour pouvoir avoir du temps pour soi et faire d'autres choses. Donc c'est possible, en fait, d'être paysan et d'avoir du temps pour soi.
C'est possible. Alors c'est vrai que c'est pas facile, pour autant, juste pour mettre un petit bémol dans le sens où il y a beaucoup quand même de néo-paysans aujourd'hui qui se sont lancés dans ces nouvelles vies pour se mettre à travailler à la terre et qui frôlent le burn-out. Parce que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'organisation, enfin c'est... Voilà. Et que parfois on retourne à ces métiers-là avec le même logiciel d'avant. C'est-à-dire changer de vie, c'est aussi changer parfois de logiciel. C'est de logiciel interne. C'est-à-dire que si on est venu avec ce truc de faut tout faire, il faut... ça peut être compliqué. Alors après, là, justement, il y avait cette intelligence collective, parce que finalement, il y a cette idée de créer du collectif avec la nature, quand on travaille en permaculture, en agroforesterie, et bien sûr, créer du collectif avec des humains. Et donc, c'est vrai que par rapport à ce grand drame du monde agricole qui parfois souffre, en plus du surendettement, de l'extrême isolement, d'être tout seul dans sa grande ferme, en haut de son grand tracteur, et puis avec personne autour, parce que les voisins sont à plusieurs bornes, et potentiellement ont envie de vous manger quand vous passerez la cour de cour. Il y a cette réponse de la mutualisation, comment reprendre un espace de travail, mutualiser les outils de travail, mutualiser le temps et s'entraider. Et donc des projets de ferme collective, il y en a de plus en plus et c'est sûr que c'est très vertueux, déjà parce que c'est riche humainement, parce que il y a mettre au sein d'une même ferme cette diversité d'activités qui vont se compléter les unes les autres, en effet entre l'élevage d'animaux qui va permettre de fertiliser les champs, et donc il y a toutes ces synergies qui peuvent se mettre en place entre les différents types d'activités. Et puis le fait que quand on est éleveur, en général, c'est une vocation. Enfin, c'est une vocation du moins au départ. Et puis après, c'est un choix qui coûte cher. Savoir que c'est 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et là, dans l'exemple de la ferme de la Tournerie, il y a cette idée que ce sont des éleveurs qui s'organisent avec beaucoup de pragmatisme. On n'est pas dans une vision idéologique, en fait, du communautarisme. C'est pas cette idée-là, c'est vraiment une idée de comment faire que mon choix de vie agricole soit gérable et vivable, et que je ne sois pas obligée de sacrifier ma vie de famille, ma vie de parents pour m'occuper de mes bêtes. Et donc, en tout cas, ce qui est passionnant, il n'y a pas de solution toute faite. Ce sont que des gens qui sont des explorateurs, et c'est en ça qu'ils sont tellement passionnants, tous ces gens. C'est qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de notice faite parce que ça sera toujours au cas par cas, ça sera toujours en fonction de qui on est, de ce qu'on veut faire. Mais en tout cas, il y a des solutions. Il y a des gens qui sont en train de bidouiller dans leur coin et de développer des modèles qui nous montrent qu'on peut réinventer l'agriculteur et l'agriculture. Et pour tous ceux qui sont comme moi, finalement, moi je ne me suis pas lancée dans ce monde-là. Il y a plein de façons d'accompagner cette transition. Il y a plein de façons d'être cohérent par rapport à ce souhait collectif qu'on a d'avoir un monde agricole résilient, vivant. Parce qu'en fait, on a besoin de lui, nous, pour vivre et pour que nos enfants plus tard puissent élever les leurs. On a ce devoir de faire attention à ce qu'on mange, d'aller rencontrer nos producteurs, d'aller au marché. Enfin, changer nous aussi nos façons d'être pour les accompagner d'une manière ou d'une autre dans ce travail passionnant qui est de réinventer le futur.